C'est pas mal, c'est pas mal.
Et merci à vous. Et je pense que vous allez intervenir à certains temps, il y aura un petit espace pour des questions après.
D'accord. Voilà, alors bonjour à chacun, à chacune. Voilà, et vous voyez, même si on va travailler entre l'évolution des techniques et la fragilité, de temps en temps, c'est la technique qui est un peu fragile. Voilà, alors pour rentrer dans le thème, je me suis dit que l'évolution de toutes les techniques ou de la technoscience aujourd'hui, ça nous met devant des questions inédites qui quelquefois nous déstabilisent. Alors voilà, comme je suis médecin, je suis sensible à tout ce qu'il y a dans la biomédecine. Bah, si demain, on vous explique que ça y est, la maladie d'Alzheimer, on a un traitement, mais qui est à partir de cellules d'origine embryonnaire, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va penser qu'un certain nombre de personnes, chrétiennes ou non chrétiennes, vont dire ça va pas, ça, c'est l'utilisation d'embryons humains, on veut pas. Enfin, sauf que s'il s'agit d'un de nos proches, est-ce si facile de refuser un traitement pour l'autre? Quand on a eu, c'est moins rare maintenant, mais ça arrive quelquefois qu'on propose à des parents qui ont un enfant atteint d'une leucémie de faire appel à ce qu'on appelle un bébé médicament, c'est-à-dire de faire naître un deuxième enfant avec des caractéristiques génétiques particulières qui vont permettre bon, d'avoir des cellules sans le cordon et tout un traitement. Ben, on voit bien qu'un certain nombre de ses parents disent oui, alors même que les psychologues disent que ce n'est pas du tout simple, les relations avec ce deuxième enfant né dans ces conditions, entre le premier, et puis qu'il y a plein de problèmes, disons, de bioéthique, de sélection embryonnaire derrière. Et en même temps, comme dirait quelqu'un, qui sommes-nous pour juger des parents face à un enfant en train de mourir d'une leucémie? Alors, les éthiciens ont posé un critère de distinction en disant déjà, bon, quand on fait usage de ces biotechnologies pour de la thérapeutique, c'est déjà un facteur positif par rapport à essayer de faire jouer nos technologies pour augmenter les capacités humaines. Et de fait, pour les croyants, il y aurait un côté défi posé à Dieu et à l'équilibre de la création, si on commençait à rentrer dans ces manipulations. Et puis pour tout le monde, l'idée d'une possibilité d'exploitation ou d'injustice entre des gens qui auraient un accès à une humanité augmentée et puis les autres. Oui, sauf que on pourrait dire que ben nous, en Occident, on a une durée de vie qui est très fortement augmentée, c'est quasiment le double, et que le double par rapport à avant, mais le double aussi par rapport à la durée de vie dans un certain nombre de pays du monde. Et quand on pense à ça, on ne pense pas qu'on ait des humains augmentés, on pense qu'il y a un accès aux droits humains qui n'est pas effectif dans l'ensemble des pays du monde. Donc vous voyez, toutes ces questions ont toujours un double volet qui nous complexifie le discernement. On sait aussi que même chez nous, si on n'a pas accès à une technique, ou si on ne la maîtrise pas, pensez à toute la question aujourd'hui de ce qu'on appelle l'analphabétisme numérique. Eh bien, les gens se retrouvent exclus s'ils ne maîtrisent pas ce matériel. Et en même temps, quand on le maîtrise, on est pris dans une perte de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire une société où on a des produits, dits médicaments, enfin bref, qui nous assurent une bonne résistance au sommeil, à la fatigue, on est au maximum de l'éveil, on est au maximum de la compétence. C'est bien notre société que je décris, hein, au nombre d'étudiants qui se dopent pour les examens. Voilà. Est-ce que demain, on va tous être contraints de prendre un certain nombre de produits pour faire face à la concurrence sur le marché de l'emploi? Mais en même temps, j'avais lu un éthicien, Bernard Berti, qui nous interpellait comme bénéficiaires. Donc je vous laisse la question qu'il avait posée, voilà. Entre, prenez l'exemple soit du pilote d'avion, soit du chirurgien, qui prend des produits stimulants qui le laissent en éveil, et puis son collègue qui refuse absolument de se doper, quel est le chirurgien ou le pilote d'avion que vous choisissez? Hein? Bon, bref. On voit bien que c'est un peu difficile de remettre un équilibre entre notre intérêt ou notre fascination, quelquefois pour la technique, qui nous apporte la sécurité, hein, face à toutes nos fragilités sociales, et puis, j'allais dire, corporelles, enfin voilà, physiques, et puis le désir d'échapper à une dépendance qu'on peut trouver mortifère pour nous ou pour les autres. Alors on a des doutes de conscience, on a des peurs légitimes, on a en même temps envie d'avoir accès à un certain nombre de possibilités de bienfaits. Et comment est-ce qu'on construit notre identité, notre parcours de vie en intégrant cette technique de la manière la plus ajustée, bénéfique possible? Alors on va voir ce que j'ai le temps de faire. Le premier temps, ça va être de se dire comment est-ce qu'on réfléchit face à la technique et à la pensée technique et le choix d'une pensée éthique. Alors, vous avez probablement, un certain nombre d'entre vous, je suis sûr de ça pour au moins la communauté, travailler sur l'encyclique Laudato Si. Et le pape François, là-dedans, a tout un chapitre où il pose un jugement critique sur notre usage de la technique, hein, c'est-à-dire pas sur la technique elle-même ou les technosciences, mais sur ce qu'il appelle la technocratie. Hein, c'est comme démocratie, le pouvoir conféré à la technique. Il y a deux manières de conférer un pouvoir à la technique. Il y a l'idée que tout ce que les hommes créent ou inventent se transforme en condition de leur existence. C'est Hannah Arendt qui disait ça. Et oui, on ne sait plus vivre sans électricité, sans smartphone pour un certain nombre d'entre nous. Voilà, si je fais le tour des gens qui sont soit avec des médicaments dont ils ont besoin, soit des lunettes, il ne doit pas y avoir grand monde qui échappe. Quelquefois, elle est tout jeune, mais bon, voilà. Donc, de fait, et le pire, c'est que ces béquilles passent à l'intérieur de nos corps. De temps en temps, on tient avec un pacemaker ou avec quelques nano-éléments dans quelques temps. Et ces techniques... Non seulement elles sont un peu angoissantes parce que la frontière entre notre corps, entre la nature et la technique, on ne le voit plus, mais en plus on ne les voit plus justement, puisque sur l'intérieur de notre corps, on a l'impression de ne plus avoir le contrôle. Donc ça, c'est une manière dont la technique prend le pouvoir. Et l'autre manière dont la technique prend le pouvoir, c'est quand on commence à raisonner de la manière de la technique et qu'on ne raisonne plus autrement. Alors, quelqu'un comme Jacques Ellul, philosophe qui a beaucoup travaillé hein, sur la technique, lui, ce qu'il dénonce, c'est qu'on nous habitue à la technique, on a surtout attrapé et mis en priorité les valeurs techniques, et il dénonce tout particulièrement le primat à l'efficacité. Et l'autre primat qui va souvent avec, c'est le primat avec la rentabilité, hein, selon les lieux où on travaille. Et il dit que ce primat nous fonctionne complètement au débours des autres valeurs. Alors, le pape François, il va dire « on n'entend plus le message de la nature ». Ellul, il va dire, qu'est-ce que ça vient faire une recherche d'efficacité si on pense, j'allais dire, à l'appel à un monde de communion, de gratuité, comme la foi chrétienne pense quelque part la finalité de la vie humaine, hein, dans cette finitude de communion. Alors que l'efficacité, la propriété, la sécurité, c'est plutôt des notions liées à la technique. On pourrait dire avec d'autres théologiens, alors je ne vais pas vous faire un cours sur l'oubli de l'être chez Heidegger, mais dans le discours abstrait, on pourrait imaginer par exemple, quelquefois on n'apporte plus tant d'importance à la qualité d'une œuvre ou à la qualité d'un travail, et quand je pense à la qualité d'une œuvre ou d'un travail, derrière j'ai la personne qui est l'auteur de cette œuvre ou qui a travaillé, et on passe directement à la réflexion sur le produit et est-ce qu'il est utile. Ou bien alors on entend un discours médiatique, voire politique, et on se rend compte que le discours ne vise pas tant la vérité ou la qualité de l'information, ce qu'on vise quand on s'adresse à un interlocuteur. Non, le discours, il vise directement une efficacité. Est-ce que ma campagne, j'allais dire de promotion, ça va me valoir une certaine quantité de clients, ou ma campagne électorale va se mettre en nombre de votants, vous voyez ? Donc ce glissement-là, dans notre manière de raisonner au quotidien, on est petit à petit influencé par la technique. Et l'autre manière dont on influence la technique, c'est quand on est les bénéficiaires et que les promesses sont telles que bah, finalement, aujourd'hui, c'est toujours un tremplin en attente d'un mieux-être ou d'un mieux-faire pour demain. Ce qui est quelque chose de plutôt frustrant et qui nous rend, j'allais dire, impatients. Or, souvent, quand on veut travailler sous d'autres valeurs, gratuité, donc, bah, l'efficacité et la rentabilité, elle n'est pas toujours immédiate. Hein, vous dites une famille se dit, tiens, je vais vivre selon la Laudato aussi, donc à partir de maintenant, on va cuisiner des produits locaux plutôt que d'acheter des tout prêts surgelés, et puis on va se mettre à recycler, à réparer, etc. Bah, ça prend du temps tout ça, vous voyez, ça décélère pas mal par rapport au rythme de vie contemporain. Il n'y a pas que les citadins qui se font avoir là-dedans. Oui, mais ça, encore une famille, il peut. Mais vous imaginez, je vais décélérer comme principe pour un chef d'entreprise. Ça risque de ne pas tenir. Oui, hein. Donc on a du mal à ne pas être embarqué par des exigences tout à fait valables dans un mode de fonctionnement sur l'efficacité, l'utile, la rentabilité. Alors comment on résiste? On résiste rarement seul et donc il faut se parler. Problème, un certain nombre d'auteurs, comme Gilbert Autois, nous ont dit « mais méfiez-vous parce que le langage lui-même est modifié par la technique ». Vous savez, c'est le langage informatique, hein, c'est très binaire. Mais même sans rentrer dans le langage informatique, enfin, ou en rentrant dedans, si vous décidez maintenant d'avoir accès à un service public et que bien sûr il n'est plus accessible que sur le net, vous allez très vite voir que la communication est quand même largement déshumanisée. Vous n'arrivez jamais à dire ce que vous voulez quand il faut caser une des cases. Et d'ailleurs, ça coince à un moment, enfin bref. Voilà. Et puis, ce langage-là, de la technique, ben, il ne donne pas accès au langage symbolique, il donne mal accès à l'analogie, aux équivoques, aux suggestifs, et donc pour formuler vraiment du sens, ou pour assumer un choix avec une face d'ombre, ce n'est pas prévu. Donc, on a du mal. On a du mal aussi à faire appel si facilement que ça à notre mémoire ou à nos traditions. Vous savez que de plus en plus, nos mémoires sont confiées à des techniques. Pensez où sont vos photos aujourd'hui. Voilà. Et ça donne une perte de maîtrise assez radicale. Et quand il y a un pépin, comme l'incendie d'un centre de données hein, qui a eu lieu il y a quelques mois, bah, ça a laissé des personnes et des entreprises mais complètement désemparées. Voilà. Et puis, alors certes, hein, la technique, quelquefois, elle crée du langage. Il y a d'autres philosophes qui disent finalement une bonne partie de notre capacité de communiquer, notre langage, s'est créé au fur et à mesure que l'homme a inventé des tas de choses. Mais en même temps, aujourd'hui, on a aussi inventé des langages et des intelligences artificielles qui nous inquiètent un peu parce qu'elles se mettent à fonctionner de manière tout à fait autonome. Hein. Elles savent apprendre, elles savent décider. Et d'ailleurs, on a la tentation de leur confier un certain nombre de décisions parce qu'elles paraissent extrêmement efficaces. Sauf que quelquefois, ces décisions ont quand même une part, si j'ose dire, de caractère moral. Bon, votre voiture autonome, elle prend des décisions redoutables hein, quand il s'agit d'éviter ou non un accident. Et puis quand on sait que de plus en plus maintenant, on a de l'intelligence artificielle et des algorithmes en médecine, on a de l'intelligence et des artificielles dans le droit, hein, l'évaluation des peines, et que, outre le fait que c'est quand même une des missions de notre responsabilité, le souci qu'on peut avoir, c'est que la réflexion de la technique est excellente au niveau de la compilation des données. Ça, nous, on est nul, hein. Notre mémoire, c'est la bulle. Mais par contre, l'intelligence artificielle, elle n'est pas très créative. Elle part à partir de ce qu'elle a vu. Et elle n'a effectivement pas d'accès à la sensibilité corporelle, pas autant d'accès à l'affectivité, à moins d'avoir compilé des données, mais ça l'a modifié, par accès évidemment au symbolique. On le voit aussi, les limites de ce que permet la technique quand on pense à tout ce que permet le distanciel. C'est absolument génial pour communiquer à l'autre bout du monde, pour nous visiter, si j'ose dire, des lieux auxquels on ne pourra jamais aller, en plus y aller instantanément. Mais en même temps, dans cette nouvelle Babel où il n'y a plus de limites, qu'est-ce qu'on peut se sentir isolé par manque de vraie communication interpersonnelle. Hein, et on peut se dire, par exemple, que le manque d'empathie d'un certain nombre de jeunes qui ont privilégié ce mode de communication technique n'est peut-être pas par hasard. Et que quand on va vouloir leur faire récupérer l'empathie, ce n'est pas avec un smartphone. Hein, c'est l'immersion, le contact avec la vie animale, enfin des tas de choses qui leur permettent de récupérer du physique, du corporel, de l'interaction. Comment dépasser cette emprise de la technique, lui assigner des limites? On peut essayer de mettre en face autre chose. Gilbert Autois, le langage, bon, il travaille sur le langage de l'amour, et l'amour c'est différent voilà, que l'efficacité technique. je ne vais pas rentrer dans l'aide chez Heidegger. Jacques Ellul, lui, il va développer, alors que c'est un philosophe de la technique, un versant théologique, hein, Dieu face à cette puissance. En même temps, la relation à Dieu pourrait être instrumentalisée ou altérée par la technique. Le pape François, il nous dit qu'il y a deux postures qui seraient à éviter parce qu'en fait, on a une certaine confusion avec le, je mets des gros guillemets, surnaturel, quand on accentue l'emprise de la technique, qu'on se laisse fasciner, qu'on lui accorde un pouvoir magique, ou l'autre versant du même problème quand on la diabolise. Et cette technique a tout pouvoir sur moi et je ne peux rien faire.